Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Gaspard, bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. Alors au programme cette semaine, il faut vous dire que nous sommes extrêmement bien accompagnés. Trois Shiba Inu à nos côtés, Ono, Aria, Nato. On va vous présenter ce petit chien extrêmement à la mode, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce chien, son origine, son tempérament. Et pour nous en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui entourée d'une éleveuse de Shiba Inu et d'une éducatrice canine. Oh, c'est pas très joli. Allez, éducateur canin, on ne sait pas trop comment le mettre au féminin. Non. Mais en tout cas, elle est spécialiste des Shiba, donc ça tombe bien. Autre sujet cette semaine dans notre séquence à l'état sauvage, à quoi servent les os? C'est la question que nous poserons à ma deuxième invitée, la Laurence Paoli. Bonjour Laurence. Et puis en compagnie d'Elodie Martins, nous vous donnerons 5 conseils pratiques pour rendre votre chien heureux. Elodie a écrit un livre sur ce sujet, l'occasion de vérifier si votre toutou est véritablement heureux. Quel programme, merci à vous d'écouter vos animaux. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Vous le savez, on vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, on démarre avec Gaspard et le journal des animaux.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et première nouvelle cette semaine, Gaspard, c'est une excellente nouvelle qui concerne le zoo de Gaza.
Et oui, plus de 40 animaux, dont 5 lions, des singes et des porcs épics, vont être évacués du zoo de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où ils vivaient dans de terribles conditions. Les animaux seront examinés à la fin du mois, puis transportés vers une réserve de Jordanie à plus de 300 km. Une belle réussite pour l'association britannique 4 Pounds à l'origine des négociations.
C'est vrai que souvent dans les pays en guerre, les animaux sont laissés pour compte et ils périssent parfois même dans les eaux, dans ces zones de combat. On parle politique ce matin, Gaspard, avec Laurent Baffy.
Oui.
On n'était pas habitué à le voir dans le domaine politique. Eh bien, il est candidat aux élections européennes.
Et oui, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans une émission qui parle des animaux? Eh bien, sachez qu'il se lance, vous l'avez dit, Natacha, pardon, en politique pour défendre les animaux avec un slogan. Si, comme moi, vous n'aimez pas la politique, allez voter pour les animaux. Animaux passionnés et engagés pour leur défense depuis de nombreuses années. L'humoriste est donc candidat pour le parti Animalis, une candidature avec laquelle il veut les défendre tout en mettant les politiques devant le fait accompli. Selon lui, vu que les animaux ne votent pas, personne ne s'en soucie.
Bien, écoutez, on suivra de près sa candidature. Et puis c'est une première pour le bien-être animal, la Flandre va interdire les feux d'artifice.
Et oui, inspiré par le ministre de la Nouvelle Alliance Flamande du bien-être animal, Ben Waits, cette mesure sert surtout à éviter les accidents de la route provoqués par les animaux apeurés. Près d'une quarantaine de communes flamandes ont été ainsi décrétées une interdiction totale des feux d'artifice sur leur territoire. Elles pourront déroger cependant à l'interdiction générale, mais uniquement à certains endroits et à des moments bien précis.
Vraiment, vous avez le chic pour aller nous trouver des infos absolument incroyables.
On va même en Belgique ce matin, Natacha.
Allez, tout de suite, on enchaîne avec vos animaux et vous et la découverte de ce fabuleux petit chien très à la mode, le Shiba Inu.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et pour nous parler de ces petits japonais, on en a 3 en studio avec nous aujourd'hui. Je dois dire que c'est très plaisant d'avoir 3 chiens comme ça à nos côtés. Ces 3 chiens ne sont pas venus tout seuls. Ils sont accompagnés par Audrey Bonigal. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Audrey, vous êtes éleveuse de Shiba. Vous allez nous présenter cette race que vous connaissez très bien. Ça a été un coup de cœur, je crois, pour vous dans votre vie. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis à vos côtés, Margot Rieux. Bonjour Margot.
Bonjour.
Donc Margot, je le disais, vous êtes éducateur canin et vous connaissez aussi particulièrement bien cette race de chien qui est un peu compliquée quand même à éduquer. Vous allez nous donner des conseils pratiques. Alors on va commencer avec vous, Audrey. D'où vous vient cet amour, Audrey, pour le Shiba?
Tout a commencé il y a 8 ans, quand je suis partie de chez mes parents, en fait, pour trouver une petite race de chien qui vivait bien en appartement, du coup. Et c'est vrai que j'ai eu tout de suite un coup de cœur pour le Shiba, donc on va pas se mentir, on a tous regardé le physique en premier. Donc c'est vrai que c'est un chien qui est
très... Vous êtes comme ça, vous ? Non, mais bon, bon, vous avez le mérite maintenant de le dire, Audrey. Très bien.
Et voilà, donc j'ai trouvé que, que c'était une race qui avait vraiment une très jolie bouille. Et du coup, après, je me suis vraiment intéressée à son caractère. Et c'est vrai que c'est un caractère...
Ah, on s'arrête pas qu'au physique.
Non,
non, c'est bien.
Il vaut mieux pas avec le Shiba. Non. Et du coup, c'est un caractère qui est quand même assez différent. Donc, c'est un chien primitif. C'est-à-dire que c'est un chien qui n'a pas vraiment été modifié par l'homme. Donc, c'est un chien qui est plutôt indépendant. Alors, c'est vrai que là, dans le studio, il y en a qui sont plutôt câlins, mais c'est pas la particularité du Shiba.
Ono, notamment, là, qui est sur vos genoux. Alors, c'est une femelle qui est âgée de 6 mois.
Oui.
Elle est noire et feu, Ono. Quelles sont les différentes couleurs possibles chez le Shiba?
Donc, il y a noir et feu comme Ono. Il y a roux. Comme Aria et Nato qui
sont
dans le
studio. Parce que vous savez que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le Facebook de Sud Radio. Ce sera l'occasion de découvrir ces magnifiques chiens qui sont à nos côtés. Donc Ono noir et feu, Aria qui est rousse.
Rousse, oui.
On peut dire rousse.
Il y a du sésame, donc c'est un peu une couleur loup, c'est gris loup, on va dire. Et il y a, alors ils sont pas reconnus par le standard, mais il y en a des tout blancs aussi.
D'accord, très bien. Et alors ce chien, c'est un chien japonais.
Oui, donc il fait partie des 6 races japonaises et c'est la plus petite race qui existe au Japon. Donc c'est le Shiba Inu. Inu, ça veut dire chien en japonais, ouais. Et Shiba, c'est petit. Donc
d'accord,
c'est un petit chien, tout simplement.
Petit chien. Effectivement, ce sont des chiens de petit gabarit. Ils font à peu près quelle hauteur au garrot?
Alors, ils font, pour une femelle, on va dire femelle mâle, ça fait environ entre 35 cm et 41 cm. Donc, pour se donner une idée pour les personnes qui écoutent, donc ouais. C'est à peu près, ça arrive à peu près au genou. Donc, ça paraît grand, mais non, c'est tout petit et ça fait une dizaine de kilos.
Et ils ont un pelage, mais incroyable. On a envie de glisser nos mains là dans leur fourrure.
Oui, c'est un pelage très, très, très dense. Mais ça s'adapte aussi bien aux températures chaudes qu'aux températures froides. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas vraiment de toilettage à faire. Par contre, ça fait de grosses mues. Donc, c'est des grosses pertes de poils.
Vous voulez dire qu'ils en mettent partout, quoi.
C'est
deux fois dans l'année.
Deux fois dans l'année.
L'appartement est dévasté.
C'est ça. Il ne faut pas être maniaque quand on a un Shiba.
Il faut donc investir dans le bon aspirateur quand on achète un Shiba.
Oui, et pas être maniaque.
Alors Audrey, c'est un chien qui est extrêmement à la mode depuis peu. D'où nous vient cette mode? On sait que dans les races de chiens, il y a comme ça des modes. Il suffit qu'il y ait un film qui sorte mettant en avant une race et hop, ça y est, tout le monde se précipite. Le Shiba, ça vient d'où?
Effectivement, comme vous le dites, il y a eu un film,
ouais.
Donc Hachi, qui est sorti il y a quasiment 10 ans maintenant, ouais, je pense. Et bon, c'était un Akita dedans, donc c'est une plus grande race japonaise, mais le chiot qui était dans le film, c'est un Shiba. Donc
d'accord.
Déjà, c'est un peu parti de là. Et puis après, il y a quand même pas mal de célébrités qui ont...
Qui ça, par exemple?
Il y a Fabrice Luchini, il y a le youtubeur Squeezie, qui est très connu aussi, et qui ont adopté des Shiba et du coup qui ont fait des vidéos. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça a encore plus créé le buzz.
Ça a peut-être aussi permis de toucher les plus jeunes générations?
Tout à fait. C'est vrai que le Shiba est souvent...
Gaspard rigole parce que je le regarde.
Oui, ils vont regarder.
Et
mais
il est jeune. Voyez arriver, oui, il est très jeune. Et alors, Gaspard est tombé amoureux des Shiba.
Oui.
Et oui, c'est vrai.
Parce que quand même, quand on a commencé cette émission ensemble, Gaspard,
je voulais pas de chien.
Vous étiez une catastrophe en termes d'animaux.
C'est vrai.
Faut dire les choses.
C'est vrai.
Il y a eu de nets progrès.
Oui. Moi, c'est grâce à vous, Natacha.
Merci, je prends ça comme un grand compliment. Donc, la mode est venue de là. Beaucoup de personnalités sont tombées en amour avec ce chien. Et finalement, de fil en aiguille, les gens sont séduits, comme vous le disiez, Audrey, par son physique à la base.
Tout à fait, oui. Par son physique et aussi parce que c'est un chien quand même qui vit assez bien en appartement.
Ah bon, parce que quand on le voit, on a l'impression que c'est plutôt un chien hyperactif. On l'imagine avoir besoin de courir, de vivre
comme,
dehors, de faire du sport.
Comme tous les chiens, ils ont besoin de sortir, ça c'est assez sûr. Mais non, c'est un chien qui est quand même assez calme à l'intérieur. Donc on parle d'un chien adulte, hein, parce que si vous adoptez un chiot, forcément, il ne sera pas calme. Mais sur un Shiba adulte, on est quand même sur un chien assez calme en intérieur. Et d'ailleurs, on dit qu'ils ont un quart de chat. Et ça, c'est un peu le côté calme, indépendant. Donc, il aime bien dormir
alors,
sur le canapé.
Le quart de chat, est-ce que ça en fait aussi des chiens justement très, très indépendants, voire limite un peu têtus?
Alors, têtus, oui, ça c'est sûr. Et ça, le Shiba se base beaucoup sur la confiance aussi. Donc, il faut vraiment tisser un lien avec son chien. c'est têtu. Après, le côté câlin, ça dépend vraiment des individus. On ne peut pas dire que ce n'est pas câlin, mais ils ne vont pas spécialement l'être non plus. Ça dépend vraiment. Ils ont chacun leur caractère à ce niveau-là.
On se retrouve dans quelques minutes pour parler toujours de ces Shiba, chiens absolument magnifiques qui sont aujourd'hui à nos côtés dans le studio de Sud Radio. Et on parlera notamment de l'éducation des Shiba en compagnie d'Audrey, qui est éleveuse, et de Margot, qui est éducatrice. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et dans vos animaux ce matin, vous l'avez compris, nous sommes extrêmement bien entourés par trois Shiba Inu, Ono, Aria et Nato. Tous les trois sont là pour nous permettre de faire meilleure connaissance avec cette race. Et on parlait justement du tempérament du Shiba. Audrey, vous qui êtes éleveuse, vous nous disiez que le Shiba est un chien quand même qui a son tempérament, plutôt un fort caractère, voire limite un petit peu têtu.
Oui, même pas limite, il est plutôt têtu, effectivement. Donc oui, non, c'est un chien du coup qui sera pas facile à éduquer. Et c'est pour ça du coup qu'on envoie souvent les propriétaires aller faire quelques séances en école du chiot ou voir un éducateur.
Ah, déjà normalement pour tous les chiens c'est plutôt recommandé,
tout
mais alors pour le Shiba ça devrait être quasi obligatoire, c'est ça.
C'est ça.
Alors Margot, justement, vous êtes éducateur canin. Comment on s'y prend avec un Shiba pour faire en sorte de ne pas être trop débordé? Gaspard, il faut être hyper attentif puisque je crois que Gaspard va franchir le pas.
Donc, il faut prendre des notes.
On va l'interroger à la fin de l'émission.
Oui, en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, tous les chiens devraient aller en école du chiot, des bonnes écoles du chiot. Et tous les chiens devraient avoir utiliser une méthode d'éducation positive, enfin devraient être éduqués en méthode positive. Et
Je vais rappeler. Ils sont habitués quand même parce qu'on en parle quasiment toutes les semaines.
D'accord.
De l'éducation positive, okay. Mais expliquez-nous quand même brièvement de quoi
voilà.
Il s'agit.
En gros, on peut schématiser en deux courants. Donc, il y avait surtout la méthode traditionnelle qui se basait plutôt sur la contrainte. Donc, on forçait son chien à obéir par quelques moyens que ce soit. Là, on va plus
genre le collier étrangleur, ce genre de choses.
Des saccades sur la laisse. Mm-hmm. En tout cas, souvent une contrainte physique, voire morale. Aujourd'hui, on va plus travailler avec la coopération du chien. Donc, on va l'amener à comprendre que ce que nous, on aimerait qu'il fasse, ça va aussi être bien pour lui. Donc, on va ajouter des friandises, on va ajouter un accès à quelque chose qu'il aime, un privilège, de la liberté, peu importe. Souvent, on se contente trop à penser à la friandise alors qu'il n'y a vraiment pas que ça. Et donc, j'insiste beaucoup sur le fait que le Shiba n'accepte vraiment pas très bien la contrainte. Qu'elle soit physique ou morale, et demande vraiment, comme le disait Audrey tout à l'heure, un lien de confiance.
Il faut vraiment qu'il ait envie pour accepter de faire ce qu'on attend de lui.
Même s'il n'a pas envie, on peut y arriver, mais il faut lui faire croire qu'il a envie.
Une question me vient, c'est est-ce que le Shiba peut être un bon premier chien, dédicace spéciale pour Gaspard?
Mais moi, je le recommande principalement en premier chien.
Ah bah bon, voilà.
Parce que
il est content là. Il jubile.
Non mais c'est vrai que justement comme ça, Gaspard ne sera pas dérouté en disant ah mais moi d'habitude les chiens ça me suit au doigt et à l'œil, ça reste toujours près de moi. Ah
bah non. Oui, Shiba, quand on n'a pas de référence effectivement.
Exactement. Donc comme c'est un chien un peu particulier,
mais ça a l'air d'être entre guillemets, même si l'expression n'est pas très jolie, c'est un chien un peu technique. C'est pas un chien à mettre entre toutes les mains, quand
c'est
même.
C'est pas un chien à mettre entre toutes les mains, mais je pense que c'est surtout un chien qui demande pas trop d'attente. C'est-à-dire qu'on vit en sa compagnie, et lui vit en notre compagnie, mais il faut pas se dire que c'est le chien de la maison.
C'est pas le chien avec qui on vit. Compagnie à proprement parler.
Exactement. C'est un membre de la famille, un individu avec qui on vit à ses côtés et il vit à nos côtés. C'est pas un meuble qu'on peut ranger ou qu'on peut prendre avec nous. C'est vraiment un individu à part entière.
Ça vous va, Gaspard, comme descriptif?
Ça me va très bien.
Vous êtes toujours prêt à signer pour la vie?
Puis il y a des contre-exemples, elle est très câline.
Aria.
Aria est très câline, effectivement. Ono aussi, hein, d'ailleurs, tout à l'heure, a été sur les genoux de sa maîtresse.
Ah bah voilà,
et là, vient sur les genoux de Laurence. Alors, comment on s'y prend pour éduquer le Shiba? On commence à partir de quel âge?
Alors déjà, sans vouloir faire de pub à Audrey, qui est une très bonne amie à moi, déjà choisir un très bon élevage.
Oui.
C'est quand même...
C'est quoi un très bon élevage? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des modes de chiens,
il y a
beaucoup de gens qui s'engouffrent un peu dans la nouveauté en se disant, finalement, ça peut être un bon filon. Donc comment on trouve le
c'est
bon élevage?
Oui. Alors
Bien sûr, on peut aller chez Audrey, mais sinon, de manière plus globale.
Je pense qu'il faut déjà regarder la passion de l'éleveur.
Oui.
Et comme vous dites, les gens s'engouffrent facilement dans un bon filon, comme on pourrait dire, et c'est très facile, ça se vend cher, ça se vend bien. Je m'y mets.
C'est quoi cher d'ailleurs ? C'est quoi le prix d'un Shiba ?
C'est à peu près 2000 euros.
Ouais, entre 1500 et 2500 euros.
Et pourquoi ça coûte si cher ?
Alors, dernièrement, il y a eu beaucoup. Alors, ceux qui travaillent, les éleveurs, en tout cas, qui travaillent plutôt bien, essayent d'importer des chiens. Donc, nous, on va les chercher.
Du Japon, donc ? Vous allez les chercher au Japon ?
Oui, on peut aller, du coup.
Aux États-Unis aussi, non ? Je crois que c'est.
Oui, on peut aller les chercher dans d'autres pays, mais pour ramener, en tout cas, du sang neuf, un bon caractère.
D'accord.
Essayez vraiment de travailler les chiens. Et puis, il faut savoir que le Shiba, c'est un chien qui fait des petites portées, d'une manière générale. Donc, c'est-à-dire
combien de chiots par portée ?
Trois. On est à peu près à trois chiots par portée. Donc, forcément, le prix aussi joue sur tout
ça. D'accord. Alors, donc, j'en reviens au choix du bon élevage avec vous, Margot. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Comment on le trouve, ce bon élevage ?
Je pense que déjà, on peut voir l'implication de l'éleveur dans la race Shiba Inu, c'est-à-dire est-ce qu'il connaît très bien la race ? Est-ce qu'il a l'air passionné par cette race-là ?
Oui.
Alors, il y a un indicateur qui est souvent indiqué comme avoir plusieurs races. C'est un indicateur qui est vrai et pas vrai, donc il faut faire aussi un peu la part des choses. Je ne pense pas qu'un éleveur qui a plein de races sera un mauvais éleveur, mais on peut se demander quand un éleveur a cinq races, est-ce qu'il connaît vraiment et les lignées, et le caractère, et tout l'historique que peut avoir chaque race, vraiment très différent. Oui, c'est des chiens, mais quand même à chaque particularité, chaque race a particularité, donc ça, je pense que c'est un bon indicateur.
Donc on prend le temps de discuter avec l'éleveur.
Tout à fait. On rencontre aussi beaucoup les parents de son futur chiot.
Oui.
Alors, évidemment, le Shiba est réputé un peu peureux. Qu'il y ait des Shiba un peu peureux, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même une différence entre un peu peureux et un chien prostré au fond de sa cage. Oui. Les conditions de vie aussi sont très importantes.
Qu'est-ce qu'il faut regarder sur les conditions de vie ?
Il faut regarder si le chien est en contact avec quand même la famille, avec des humains, et pas que avec son éleveur.
Mm-hmm.
S'il a des sorties relativement satisfaisantes tous les jours et qu'il ne va pas rester dans son enclos. Un petit indicateur qui peut être intéressant, ce serait...
Là, vous parlez des reproducteurs, des
reproducteurs,
adultes.
Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éjections dans le chenil, ce qui peut peut-être indiquer qu'il n'y a peut-être pas assez de sorties,
oui.
Ça peut être aussi un indicateur. Est-ce que l'éleveur vit avec des shibas chez lui, donc pas ses shibas de reproduction, mais un shiba de compagnie, ça indique aussi quand même quelque part la passion. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Il y a aussi beaucoup, alors ça c'est un peu plus difficile à regarder, mais la socialisation. Est-ce que le chiot a vu autre chose que juste des grilles de chenil ?
Ça, c'est compliqué de...
C'est difficile.
De vérifier. On peut poser la question à l'éleveur. Mais...
On peut poser la question à l'éleveur, puis aussi, surtout, on peut poser la question aux propriétaires des chiens qui viennent de cet élevage.
Oui.
Alors, c'est pas... y en a qui sont très contents de très mauvais élevage, mais quand même, il y a quand même une tendance générale vers est-ce que c'est un bon éleveur, est-ce qu'il socialise bien ses chiots, etc.
Et après, rapidement, en termes d'éducation, est-ce qu'il faut prendre au départ une série de cours avec un professionnel ? Comment on s'y prend ?
Alors, moi, je trouve que l'école des chiots, si elle est bien menée par l'éducateur, est un très bon moyen de à la fois socialiser son chiot, donc il voit d'autres chiens, donc ça c'est vraiment très important, mais également qu'il ait les bases de l'éducation. Donc comment faire quand mon chiot me mordit, comment faire quand il rencontre d'autres chiens, etc. En plus, on le conseille à des gens qui n'ont pas eu de chien, donc c'est pas forcément évident. Et puis ce que je pense aussi, c'est de faire des sorties avec... alors je sais qu'il y a des groupes par exemple sur Facebook qui aiment l'éducation positive et on va se retrouver ensemble pour une sortie le week-end, etc. Donc ça peut aussi être un très bon moyen.
Eh bien voilà, un excellent moyen effectivement de se mettre Shiba, Gaspard à bon entendeur.
Mais,
merci pour vos beaux conseils. Audrey, je rappelle donc que vous êtes éleveuse de Shiba. Votre élevage s'appelle Sakura Kensha, c'est ça, j'ai
oui,
bien prononcé, j'ai pas dit de bêtises.
Non, tout est bon.
Et Margot, donc Margot Rieux, vous êtes éducatrice chez Primitif Addict. Merci à vous deux pour vos bons conseils, vous restez avec nous.
Merci.
On va d'ailleurs reparler de chiens un petit peu plus tard dans cette émission avec Élodie Martins qui a sorti un ouvrage passionnant sur comment rendre son chien heureux. On essaiera de voir ça avec quelques points clés. Allez, courte page de pub, on se retrouve juste après.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et au programme, dans la suite de vos animaux, dans notre séquence à l'état sauvage, nous vous poserons et nous poserons cette question: à quoi servent les zoos, avec une spécialiste qui connaît bien cet environnement. Elle pourra nous expliquer un peu l'engagement des zoos en faveur de la protection des espèces. N'hésitez d'ailleurs pas à réagir, 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio. Et puis, nous vous donnerons 5 conseils pratiques pour rendre votre chien heureux. Mais tout de suite...
Les questions veto qui vous sont posées, Natacha.
Quel enchaînement.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Et on accueille Nancy ce matin. Bonjour Nancy.
Bonjour. Bonjour Nancy.
On vous avez un joli accent, Nancy. Vous nous appelez d'où ?
À côté de Toulouse.
À côté de Toulouse. Bon, bah, écoutez, parfait, vous avez du soleil dans la voix. Ça fait bien Merci. Plaisir. Merci. Quelle est votre question, Nancy ?
Alors voilà, moi j'ai un petit pitbull.
Oui.
Qui est adorable, qui va avoir un ange à la fin du mois.
Oui.
Mais elle a un tout petit défaut, c'est que lorsqu'elle est détachée, bon, elle n'est jamais attachée, mais quand on sort ensemble, mordre, mais pas méchamment, comme qui dirait, tu viens, on va jouer.
D'accord. Donc, elle vous sollicite en vous mordillant un peu.
Voilà. Sauf que j'ai des petits-enfants et que je n'ai pas envie qu'elle les morde, donc je ne sais pas quoi faire pour l'empêcher.
Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce qu'on a une éducatrice en plus dans le studio et comme elle est toujours là, Margot, vous avez donné des bons conseils pratiques à Nancy.
Alors bonjour Nancy.
Bonjour Margot.
Alors déjà, il faut savoir que vous avez donc un pitbull, hein, c'est
oui,
ça ?
Pitbull.
Voilà. Donc, c'est un chien qui a un fort besoin masticatoire. Je pense qu'il y aurait plusieurs possibilités déjà de faire beaucoup d'enrichissement. Alors je ne sais pas si vous savez
faut
de quoi je parle.
Peut-être expliquer voilà de quoi il s'agit.
Donc c'est essayer d'amener des jouets d'occupation mentale par exemple chez vous. Donc ça peut être des balles avec de la nourriture dedans. Ça peut être lui donner sa nourriture uniquement dans des balles distributrices. Comme ça, il pourra travailler pour sa nourriture. On en parle beaucoup dans les zones, donc ça pourra faire une petite transition.
Le fameux Pipolino, dont je parle très régulièrement.
C'est plus pour les chats.
Mais il y en a
pour les chiens aussi.
Il y a même un très gros modèle pour les chevaux.
Ah bah voilà.
Et dans les zoos, on fabrique des trucs sur mesure pour les éléphants.
Donc, et puis en plus, maintenant, il y a des nouveaux jouets qui sont un peu plus design que
le Pipolino.
Voilà.
Ouais, mais moi, je suis un peu ringarde, vous savez.
Non, c'est bien, mais c'est parce qu'il est lourd et que parfois, ça peut être compliqué avec le parquet. Donc ça peut être une bonne solution dans le quotidien. Et puis de rediriger, en fait, votre chien. Donc dès qu'il veut prendre soit votre main, votre manche ou votre petit enfant, dans la gueule, par affection, il faut rediriger. Je vous donne un exemple.
Vous dites ça avec beaucoup de sérénité, mais ça
oui,
peut quand même faire peur.
Tout à fait, surtout quand c'est un pitbull, mais en fait, les chiens...
Même pour tous les chiens, quel que soit le chien.
Voilà, mais en fait, le chien a une démonstration affective qui peut être un peu déroutante, c'est qu'il aime prendre en gueule. Donc, par exemple, il peut prendre votre bras dans sa gueule pour juste vous indiquer qu'il est très content de vous voir.
Oui, et puis ça peut être une incitation au jeu aussi.
Exactement. Ce qu'il faut, c'est juste que ça ne se transforme pas en trop d'excitation qui peut après monter et puis se transformer en quelque chose qu'on n'a pas trop envie de voir, et qui peut être dangereux. Donc le mieux, c'est de rediriger systématiquement sur un jouet, par exemple, ou un bâton, ou quelque chose.
Il faut peut-être arrêter la séquence d'excitation, Nancy.
Exactement.
C'est-à-dire que quand votre chien commence à vous mordiller ou à mordiller les enfants ou les gens qui se présentent à lui, il ne faut pas lui répondre en jouant tout de suite, parce que
surtout
sinon,
pas.
Lui, il va associer le fait que je mordis et on joue avec moi, donc c'est super fun. Je vais continuer à mordiller,
Exactement.
Parce qu'à chaque fois, on va jouer avec moi.
Exactement.
Donc quand il mordit, on ne joue pas avec lui. On lui dit d'une manière un peu ferme, je parle sous contrôle de Margot, mais je vois qu'elle est d'accord avec ce que je dis, donc tout va bien. On lui dit de manière un peu ferme de s'arrêter, on le stoppe, et puis après, on revient au jeu.
En fait, moi, ce que je conseille, c'est de... En fait, le fait d'arrêter de jouer... sera de toute façon un indicateur au chien que ça ne marche pas.
Voilà.
Donc tu veux jouer, mais cette façon d'interagir
avec moi
ne marche pas.
Il ne faut pas le renforcer dans un mauvais comportement.
Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de redirection, parce que le chien a un besoin, et si on ne comble pas ce besoin, il va forcément se remanifester.
Mmh. Eh bien écoutez, Nancy, essayez de mettre en application ces bons conseils, et n'oubliez jamais qu'on ne laisse jamais un enfant en compagnie d'un chien sans surveillance.
Tout à fait.
Même le chien le plus gentil
Surtout
de la Terre.
Surtout le chien le plus gentil
Voilà,
de la Terre.
Parce que c'est comme ça que se passent les morsures. Pas forcément à cause du chien d'ailleurs, mais en tout cas c'est une source de morsure des enfants et après c'est un vrai traumatisme pour eux. Donc on les garde toujours à l'œil. Merci de nous avoir appelé Nancy, on vous souhaite un excellent week-end.
À vous tous aussi, je vous remercie.
On vous embrasse.
Si, comme Nancy, vous voulez poser vos questions à Natacha Harry ou à ses invités, n'hésitez pas, 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio ou par mail à l'adresse jeparticipe@sudradio.fr.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Changement total de sujet avec vous, Laurence Paoli. On va parler des zoos. Vous venez d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Zoo, un nouveau pacte avec la nature ». C'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors Laurence, pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs, vous êtes passionnée d'animaux. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années aux côtés et au sein des parcs zoologiques, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle et puis pour d'autres grands parcs zoologiques français. Donc vous connaissez par cœur cet environnement. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui se posent cette question, à quoi servent les zoos ? Alors je vais vous poser aussi cette question.
Enfin, on se la pose et on se la pose de plus en plus. Et effectivement, j'ai un parcours au sein des zoos puisque je m'occupais de communication en fait dans les parcs zoologiques. Et j'ai travaillé au muséum. Puis ensuite, j'ai monté une agence et je me suis occupée de beaucoup de parcs zoologiques privés pour leur communication. Et donc, j'ai vu évoluer en 25 ans ces institutions. Je les ai vues beaucoup évoluer. J'ai vu en parallèle évoluer aussi la reconnaissance du droit des animaux et de leur sensibilité, ce qui est quand même quelque chose de capital. J'ai vu monter les mouvements antispécistes, animalistes, qui s'opposent à beaucoup de choses et qui s'opposent aux zoos, en fait, à la notion de captivité dans les zoos. Et c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre. Alors, pour que ce soit clair, en fait, et pour être libre de ma pensée et de ma parole, comme je dis, j'ai cessé de travailler pour les parcs zoologiques pendant un an.
Oui, ça démontre que vous n'êtes pas là payé par les parcs zoologiques pour leur faire de la pub, hein, pour parler très franchement. Vous êtes là parce que vous avez des convictions, que vous connaissez cet environnement et que vous souhaitez expliquer à quoi servent les parcs zoologiques. Et ils sont très loin aujourd'hui d'être simplement des lieux d'exhibition comme ils ont pu l'être par le passé.
Tout à fait. Les parcs zoologiques, actuellement, ont une mission, ont trois missions très précises. C'est conservation, recherche et pédagogie. Ce sont des missions officielles qu'ils doivent respecter. Ils montrent les animaux, certes, mais à des fins pédagogiques, on va dire. Ils ont une mission d'apprendre à leurs visiteurs tout ce qu'ils peuvent sur les espèces qui sont présentées. Ils ont des missions donc de conservation, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de reproduction d'espèces rares, et dans les parcs zoologiques et dans la nature, ce qu'on sait un peu moins en fait qu'on devrait le savoir. Et ils font aussi de la recherche. Alors en France, je le mets.
Alors attention, faire de la recherche, ça veut pas dire faire de l'expérimentation sur les animaux.
Pas. Non, on travaille sur l'éthologie, on travaille sur les comportements sociaux, on travaille sur la reproduction, sur l'alimentation. Et cette recherche sert justement à travailler de façon beaucoup plus précise dans la nature sur la protection des espèces en voie de disparition. Donc ces zoos en fait ont ces missions très précises et qui sont très souvent méconnues, ou en tout cas on va dire l'ampleur de ces missions est méconnue parce que les parcs, alors je suis bien placée pour le savoir, communiquent pas forcément bien sur ces missions, et ensuite parce que le public n'est pas toujours réceptif à ça, parce qu'en fait ce qu'il vient chercher dans un zoo avant toute chose, c'est une promenade agréable en famille, voir des animaux qui font rêver.
C'est peut-être de moins en moins vrai aujourd'hui ça, le regard ça des Français toujours. Est en train d'évoluer par rapport aux zoos et aux animaux de manière générale.
Ça existe toujours, en fait l'impulsion de départ pour aller dans un zoo, c'est quand même
passer un moment agréable avec les enfants.
Exactement. Et après, il y a des impulsions secondaires qui sont apprendre quelque chose, découvrir des choses nouvelles, participer à la conservation si une partie de votre billet est reversée à un projet ou si vous pouvez sur place adhérer à un projet. Et avant toute chose aussi, le public a besoin, quand il vient dans un parc zoologique, de déculpabiliser, c'est-à-dire qu'il doit vraiment avoir le sentiment, et il a raison, que les animaux qu'il voit quand il se promène dans un zoo sont des animaux qui sont heureux, en tout cas qui sont dans leur état optimal.
Ce sujet fait réagir justement.
Oui. Caroline veut intervenir sur le sujet des zoos. Elle a composé le 0826 300 300. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Bonjour Caroline.
Eh bien, je viens d'écouter tout ce qui s'est dit et je suis totalement d'accord avec cette personne. Aujourd'hui, les zoos, c'est plus ceux d'il y a 100 ans où il y avait l'exhibition, où on était là pour mettre en cage les animaux. Aujourd'hui, vraiment, les zoos sont là dans un esprit de conservation des espèces rares, parfois, avec des échanges dans le monde entier avec différents d'autres zoos pour éviter la consanguinité. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis pour les zoos, alors qu'il y a 100 ans, j'y étais pas pour.
Et je... oh. Bah, vous n'étiez pas née, Caroline, il y a 100 ans.
Mais même, c'est un petit peu comme, vous savez, Barnum, quand il, dans les cirques, il exposait les gens qui venaient d'Australie, les aborigènes et tout ça. Et ben, c'était un peu le même principe. C'était là pour voir des animaux en cage. Aujourd'hui, on pense vraiment à leur bien-être. On voit déjà comment les soigneurs s'en occupent en essayant de faire en sorte que même le nourrissage, et ben, ce soit un jeu pour les animaux.
L'enrichissement dont on parlait. Alors,
voilà,
oui.
Exactement. C'est très, très important qu'aujourd'hui, ben, c'est le mieux que ce qu'on leur peut leur proposer par rapport à l'extérieur où ils sont plus en danger que s'ils étaient dans un zoo. Et que, effectivement, par contre, j'étais pas au courant du fait que aujourd'hui, même les zoos sur l'extérieur s'occupent d'espèces pour aussi les préserver.
Mais moi,
de plus en plus, bah, vous voyez, m'apprenez quelque chose, mais moi, je suis pour les zoos. Je me souviens, il y a 25 ans, être allée aux zoos de Beauval. Et alors, vous voyez, il y a 25 ans, le parking, c'était un champ. Hein.
Et, oui, j'ai connu.
Et c'était déjà, ouais, je l'ai connu comme ça aussi. Et c'était déjà un zoo qui prenait en compte le bien-être de ces animaux. Et de toute façon, dans n'importe quel zoo dans le monde entier, si vous y allez, qu'il y a un taux de reproduction très important, c'est que les animaux sont bien. Sinon, les animaux ne se reproduisent pas.
Alors ça dépend des espèces.
Les lions, bah, par exemple, se reproduisent très facilement et on peut facilement avoir de la main de l'homme.
Non, mais il y a certes, excusez-moi, je vous coupe juste, mais je vous remercie infiniment de votre commentaire qui est très réconfortant. Mais en fait, effectivement, l'indice de la reproduction fonctionne pour certaines espèces. Effectivement, certaines espèces ne se reproduisent pas si elles ne sont pas bien, mais pour d'autres, comme les lions, comme disait Natacha, la reproduction se fait très facilement. Donc, c'est la reproduction en parc zoologique est un des indices de bien-être, mais n'est pas le seul. Et il faut effectivement regarder l'enclos, l'état du poil, le comportement de l'animal, a-t-il des mouvements stéréotypés ou pas, est-ce qu'il a suffisamment d'espace, est-ce que c'est comme pour un élevage de chiens, on va dire, est-ce que le parc est propre, est-ce que voilà, est-ce que ça respire la bonne santé, le bonheur et le comportement naturel, voilà.
Mais je crois que le public justement aujourd'hui a cet œil critique vis-à-vis des parcs zoologiques
et
fait très attention à ça, parce que c'est sûr qu'on est content de venir admirer des animaux, mais on n'a pas envie de voir des animaux malheureux.
On n'a pas envie de voir des animaux malheureux, et à la base quand même, on n'a pas forcément envie non plus de voir des animaux enfermés, donc l'enfermement des animaux dans un parc zoologique, ça moi je le mets dans mon livre, c'est une conviction profonde, ne peut pas être légitimé uniquement par le côté loisir, découverte, promenade familiale, sympa. Il y a forcément derrière ces fameuses vocations qui doivent être remplies, qui sont la conservation, la recherche et la pédagogie. La pédagogie peut se faire de façon spontanée, on va dire, en visitant le parc ou de façon un peu plus fouillée, avec des ateliers, avec des formations, avec des informations délivrées de façon plus ou moins ludique. Et la conservation, madame, toujours pour continuer à vous répondre, en fait, actuellement, les zoos du monde entier donnent en moyenne 350 millions de dollars à la conservation de terrain. Donc, c'est les troisièmes plus gros donateurs, on va dire, dans les gros donateurs sur la conservation. Et les chercheurs de terrain, qui ne sont pas en général pas affiliés aux zoos, qui sont des chercheurs indépendants qui portent leur projet de terrain, comptent énormément sur l'apport financier des parcs zoologiques et en ont terriblement besoin.
Très bien, et bien merci infiniment Caroline pour ce témoignage et votre appel. Bien sûr, on vous souhaite un très bon week-end. Laurence, une dernière question.
Merci
Caroline.
Merci.
Une dernière question très rapidement. Pouvez-vous nous citer un exemple de réintroduction d'espèces par le biais de parcs zoologiques qui a marché?
Alors, je vais vous en citer un qui est en cours de marché, mais qui a un exemple tout à fait particulier parce que c'est très compliqué de réintroduire les félins.
Oui.
C'est la panthère de Perse. En fait, la panthère de Perse avait disparu des montagnes du Caucase russe. Il y en a encore quelques... je crois qu'il y a 1000 individus en Iran. Enfin, c'est un animal qui est vraiment sur le bord de l'extinction. Et la Russie s'est intéressée à cet animal et a voulu le réintroduire dans ces montagnes. L'UICN s'en est mêlé.
L'Union internationale pour la conservation de la nature,
ce qui est donc un gage de sérieux. Les zoos s'en sont mêlés parce qu'en fait, il fallait, pour réintroduire ces animaux, il fallait bien les élever.
Bien sûr.
Les Russes ont essayé, alors ils ont monté un centre d'élevage à Sotchi avec des animaux qu'ils avaient récupérés à droite et à gauche, un centre d'élevage tout à fait sérieux, mais les animaux ne se sont pas reproduits. Et donc, ils ont fait appel à des animaux de zoo, et c'est le zoo de Lisbonne qui a envoyé un couple là-bas, qui a eu des petits. À partir de là, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a une stimulation hormonale, tous ceux qui bossent avec les animaux connaissent, avec l'arrivée de nouveaux individus, les petits qui sont nés, les les animaux sur place ont commencé à se reproduire. Et en 2016, on a pu réintroduire 3 panthères de Perse dans les montagnes russes. Malheureusement, alors c'est là que c'est complexe, avec les félins, c'est compliqué, je le redis encore une fois. Il y a un animal qui n'a pas réussi à se nourrir naturellement, donc on a retrouvé mort et très maigre, mais les deux autres, visiblement, sont suivis avec des colliers et tout, et ça fonctionne.
Bon, et bien écoutez, on va rester sur cette excellente nouvelle. Merci Laurence Paoli. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Zoo, un nouveau pacte avec la nature. C'est aux éditions Buchet-Chastel. C'est absolument passionnant, je vous le conseille.
Merci.
Petite pause et on se retrouve tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et vous connaissez ce rendez-vous, celui des mots, des expressions en rapport avec les animaux. Bonjour Joël.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va payer en monnaie de singe. Ça veut dire quoi, payer en monnaie de singe?
On sait qu'au Moyen-Âge, le singe était un animal de compagnie qui était très apprécié. Soit il était importé pour des cours, des princes, des évêques, etc., qu'il distrayait. Ou alors, simplement pour être montré et permettre à celui qui les montrait, qui s'appelait un jongleur, de gagner un petit peu, quelques pièces en faisant faire des pitreries à ces singes. Alors, ces jongleurs, batteleurs, montreurs d'animaux faisaient partie de toute une multitude de petits métiers comme ça.
Qui pullulaient de la rue, en fait.
Voilà, et qui, notamment à Paris, voulaient passer d'un endroit à l'autre, d'une rive à l'autre de la Seine. Et à l'époque, il n'y avait que 2 ponts. Le grand pont, le petit pont. Alors pour le grand pont, je ne sais pas, mais pour le petit pont, un jour, Saint-Louis, le roi Saint-Louis, au XIIIe siècle, a décidé de faire payer un droit de passage.
D'accord.
Pour traverser
l'autoroute
le pont. Donc
du
tous
pont.
Les gens, les petits métiers, tout ce qui transportait des marchandises et autres, ils devaient les déclarer et ils devaient payer un petit peu d'argent pour traverser. Et pour ce qui est des singes, les gens qui vendaient des singes, eux, devaient s'acquitter de 4 deniers. Mais ceux qui avaient leur singe, simplement pour ensuite faire des petits tours, hein. Comme ça, des acrobaties, et donc amuser la galerie, amuser les autres, eux étaient totalement dispensés, exemptés de tout paiement.
Voilà. D'où l'idée, payer en monnaie de singe.
Exactement. Au départ, c'était une sorte de paiement en nature, et puis ensuite, ça a évolué pour décrire un marché de dupes, une espèce de paiement en parole et en vagues promesses. Voilà.
Eh bien, merci pour ces explications. C'est toujours riche de découvertes, vos chroniques, Joël. Merci infiniment. Allez, tout de suite, c'est votre histoire, et avec Élodie Martins, nous allons voir si votre chien est heureux.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Bonjour Élodie.
Bonjour Natacha.
Alors Élodie, vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Rendre son chien heureux », c'est aux éditions Ulmer. C'est un ouvrage d'ailleurs que vous avez coécrit avec Françoise Claustre. Alors moi, je vais vous poser une question très simple, c'est comment savoir d'abord si son chien est heureux? À quoi voit-on que votre animal respire le bonheur?
Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce que le chien n'a pas de comportement gênant ou de choses comme ça, qu'il est forcément heureux. On va s'en rendre compte en l'observant et surtout en comprenant ses moyens de communication. Donc on a plein de petits signaux de communication, des signaux d'apaisement que le chien va émettre. Et plus on va être attentif à ça et correctement y répondre, plus on permettra à son chien d'être bien.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous appelez les signaux d'apaisement?
Oui, tout à fait. Donc les signaux d'apaisement, c'est Thurie de Rugas qui en avait fait un ouvrage où elle avait bien tout détaillé les signaux. C'est des signaux de communication que le chien va émettre dans certaines situations. Donc ça va être comme le fait de tourner la tête, par exemple, de plisser les yeux, de bâiller. Donc on l'a beaucoup vu dans les contacts, en règle générale, quand on propose de caresser les chiens, les petits shibas de tout à l'heure, quand vous étiez dans la rue, justement, j'ai vu des passants essayer de caresser les chiens, et les chiens, justement, donnaient des petits signaux pour dire s'ils étaient OK ou pas d'avoir un contact. Donc ces petits signaux, le chien va effectivement les émettre à des moments, très souvent sur les contacts très rapprochés avec l'humain ou avec d'autres congénères.
Donc pour savoir si son chien est heureux, première chose, il faut absolument l'observer. J'imagine qu'il faut savoir se mettre à sa place, en fait.
Il faut effectivement...
Parce que nous, on a notre vision de ce qu'on attend de lui, mais lui, il a sa vision de chien.
Exactement.
C'est pas forcément la même.
Il faut un petit peu penser chien. Il faut se mettre à sa place, que ce soit d'un point de vue des codes canins, mais aussi physique. Moi, je dis toujours aux gens, mais mettez-vous à la place. Un petit chihuahua, c'est tout petit. Il voit tout en très grand, donc forcément, il peut avoir plus facilement peur. Et ça, on a tendance un petit peu à oublier en fonction des différences de gabarit. Donc, il faut se mettre à sa place et il faut essayer de comprendre ce qui pousse à agir de la sorte. On a tendance à penser « il fait ça pour m'embêter », alors que pas du tout, le chien, il va opter un comportement en fonction de la situation qu'on va lui proposer. Donc, c'est à nous de réfléchir, de nous dire « pourquoi mon chien a opté pour ce comportement à ce moment-là » et à se remettre, nous, en question.
Oui, ça, c'est sûr que c'est vraiment très important. Deuxième clé, moi, qui me semble importante pour rendre son chien heureux, c'est, bien sûr, savoir le respecter dans ses besoins et puis dans sa personnalité. Parce que là, on a l'exemple des Shiba, là, qui sont avec nous dans le studio. D'ailleurs, alors, ils n'en ont rien à faire de ce qu'on raconte. Ils jouent. Il y a une partie de jeu qui est en train de se dérouler là, depuis quelques minutes. Par exemple, le Shiba, on a décrit un comportement général, mais évidemment, chaque individu au sein d'une race va être un individu à part entière, donc aura son propre comportement.
Oui, effectivement, ce que vous disiez, il faut répondre aux besoins fondamentaux du chien. Donc, au niveau des besoins, on va avoir les besoins de base, lui donner une bonne alimentation, faire des sorties hygiéniques et tout ça. Mais il va falloir répondre à d'autres besoins qui sont essentiels, les dépenses physiques et les dépenses intellectuelles, ainsi que le bien-être au quotidien, c'est-à-dire avoir un bon relationnel avec son chien pour pouvoir justement s'adapter. Vous le précisez, et moi j'ai un point d'honneur là-dessus, c'est qu'ils sont tous uniques et qu'il faut apprendre à découvrir son propre chien. Certes, on a des prédispositions en fonction de la race, du physique du chien et tout ça, mais il est unique. Donc même s'il a peut-être un corps d'athlète, il ne va peut-être pas aimer telle ou telle activité auquel on aurait nous pensé quand on l'a adopté. Donc il va falloir s'adapter à son chien et répondre à ses besoins. Au niveau du relationnel, on a parlé tout à l'heure, et c'est super, de tout ce qui est éducation positive. Je suis pour tout ce qui est relation bienveillante et respectueuse vis-à-vis du chien. C'est vraiment la base. Je pense que si on a une très bonne relation avec son chien, si on le comprend bien, le reste, j'ai envie de dire, va être très simple en réalité. S'il y a ce respect mutuel qui s'installe entre nous et notre chien, le chien va être à l'écoute, il va avoir envie de nous écouter. Et concrètement, l'éducation va être très, très facile.
Va être très facile en fonction des races, à modérer quand même. On met un petit bémol en ce qui concerne le Shiba, on a bien compris.
Mais je pense que si on respecte bien sa nature et qu'on a une relation de confiance, c'est bon. Hein,
oui. Écoutez, parfait. Autre clé pour rendre son chien heureux, c'est peut-être aussi comprendre sa nature d'animal social. Il aime la vie en société. Alors la vie en société au sens large, société de chien, il a besoin de contact avec ses congénères et puis il s'intègre finalement assez bien dans la société des humains. Il peut même être en demande parfois.
Oui, alors comme j'en parle dans l'ouvrage, je parle beaucoup des balades. Donc déjà le fait de sortir son chien. Alors je ne parle pas de la sortie hygiénique, je parle vraiment de faire des vraies balades où on va laisser son chien flairer. Ça c'est vraiment très important de ne pas pousser le chien pour pas qu'il flaire. Moi je dis toujours à mes clients, il est en train de lire son fil d'actualité de Facebook. C'est un petit peu ça. C'est ça. Son activité à lui, il faut le laisser flairer. Et pareil, autre activité très sympa à faire en extérieur avec son chien, c'est le laisser avoir des contacts avec des congénères. Le chien a besoin d'avoir des copains chiens, de les retrouver, surtout
ou savoir que tel ou tel chien n'est pas son copain.
Exactement, de respecter ça, donc de bien communiquer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure donc, avec la chienne de Margot qui montrait les dents. C'est une communication tout à fait normale et que nous, on doit laisser faire. Un chien peut montrer les dents pour dire à un autre « Oh, moi, je ne veux pas de contact, tu me laisses tranquille. » Et l'autre chien doit le respecter. Donc, c'est important justement de les laisser se côtoyer, communiquer. Grogner, c'est tout à fait normal chez le chien, il ne faut pas paniquer. Ils communiquent et c'est très très bien. Tant qu'ils communiquent, justement, ils vont se mettre d'accord et tout va bien se passer. Mais il faut entretenir les contacts avec les congénères.
Ce que vous dites d'ailleurs me fait réagir parce que moi qui vis sur Paris, c'est vrai que quand je promenais mon chien, comme c'était un gros chien, souvent quand je croisais une petite grand-mère, je ne veux pas stigmatiser les grand-mères, mais une petite grand-mère avec un tout petit chien, tout de suite, elle avait le réflexe de le prendre dans ses bras.
Téléportage, j'appelle
voilà.
ça.
Voilà, alors que Max, mon Golden Retriever, n'avait juste qu'une envie, c'était de faire copain-copain. Et ça, quand on a cette réaction-là, eh bien, on crée des problèmes.
Oui, alors en plus, quand une personne fait ça, ce que j'appelle téléporter son chien. C'est très anxiogène pour le chien parce qu'il sait que
pour
quand
le petit chien qui
pour
est
le petit chien, bah oui,
parce qu'il se dit oh là, il doit
à n'importe quel moment il se décolle du sol. Et en plus, du coup, c'est associé à chaque fois à la présence d'un autre congénère. Donc ça peut créer des associations négatives et le petit chien va se montrer plus réticent à croiser d'autres chiens. Effectivement, après, les rencontres ne sont pas toujours idéales en ville, en laisse, sur des trottoirs qui sont étroits. Les chiens ne vont pas pouvoir communiquer correctement. Mais prendre son petit chien dans les bras, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Au contraire, on devrait détendre nos laisses pour que les chiens puissent communiquer entre eux. Et puis le petit chien
c'est un peu comme si en croisant quelqu'un, on lui tournait le dos pour ne pas lui dire bonjour, en gros.
Oui, c'est ça.
Bon, merci Élodie. Et je termine juste par une chose. La dernière chose pour rendre son chien heureux, c'est de l'aimer.
Oui,
hein, quand même, on va terminer là-dessus. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Élodie Martins, « Rendre son chien heureux », c'est aux éditions Ulmer. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite avec Gaspard un excellent week-end et Gaspard va mettre son week-end à contribution pour réfléchir à l'acquisition d'un Shiba Inu. Oui. Parce qu'il faut prendre le temps de la réflexion et en c'est plus, vrai. Il paraît que le délai est super long. Allez, on vous embrasse. Ciao à tous.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.